Dieu te bénisse. Lequel est le micro? Oui. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est un très très grand privilège pour moi d'être ici aujourd'hui pour partager avec vous la véritable parole de Dieu, les promesses pour notre jour, et aussi de ce que mes yeux ont vu et de ce que mes oreilles ont entendu, des choses que Dieu a faites dans notre temps. C'est absolument nécessaire de connaître la parole promise de Dieu, de croire la parole promise de Dieu et d'avoir part à ce que Dieu est en train de faire maintenant. Ainsi, par la grâce de Dieu, j'aimerais lire deux Écritures avant de donner un petit témoignage. Et ensuite, nous continuerons avec la parole de Dieu. Romains chapitre 1er. Et puissent tous ceux qui sont reliés à nous internationalement soient bénis aussi d'une manière spéciale. Et spécialement en Roumanie, dans aucun autre pays d'Europe, il y a autant de personnes qui soient reliées à nous dans les services que nous avons déjà eus dans ce pays. Dans Romains, chapitre 1er, versets 1 et 2. Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre appelé, mis à part pour l'évangile de Dieu, lequel il avait auparavant promis par ses prophètes dans de saintes Écritures. L'Évangile de Dieu, d'abord promis à travers tout l'Ancien Testament par les prophètes, et ensuite, dans le cours du Nouveau Testament, nous avons l'enregistrement, la réalisation de toutes les promesses données dans l'Ancien Testament et qui ont été accomplies depuis le début du Nouveau Testament. Ensuite, dans 1 Jean, nous allons lire simplement les deux premiers versets. 1 Jean. Ici, nous lisons ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée, et nous avons vu, et nous déclarons, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Comme je l'ai dit, je vais utiliser beaucoup d'écritures. Je crois que tout ce que nous disons doit être dans la parole de Dieu. Chaque message, et à propos, afin que vous compreniez, j'ai les 1200 sermons de frère Branham avec moi sur chaque vol d'avion que je prends. Je prends l'avion, j'utilise l'avion, les vols pour écouter les prédications de frère Branham. C'est presque pratique, juste un petit appareil. Et ici, j'ai tous les 1200 sermons. Je suis un témoin oculaire de ce que Dieu a fait dans notre temps. Durant 10 ans, j'ai connu frère Branham. J'étais avec lui dans la même voiture. Il conduisait et moi, j'étais assis à côté de lui. J'ai mangé avec lui à la même table. J'ai été dans ses réunions en Allemagne et dans ses réunions aux États-Unis. Et dès la première réunion, j'ai su que celui-ci est un homme de Dieu. Parce que les choses qui se passaient durant les réunions, personne ne pouvait les faire, à moins que Dieu ne soit avec lui. Les aveugles reçurent la vue, les sourds purent entendre, les paralytiques purent marcher. J'ai vu les jours de la Bible, j'ai vu Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis dans le royaume de Dieu depuis 1949, quand, lors d'une conférence internationale à Hambourg, en Allemagne, à la conférence pentecôtiste, des gens, et spécialement les ministres de différents pays, étaient en train de prêcher et apporter la parole de Dieu. Et parmi eux, j'ai entendu pour la première fois en 1949, c'était le frère Hall Hartman, l'homme qui a travaillé avant comme un photographe, un réalisateur pour Hollywood. Et il avait été choisi par le gouvernement américain pour filmer le bombardement en 1945, pour filmer le bombardement de Hiroshima et de Nagasaki. Et l'impression qu'il a eue de ce résultat, de ce bombardement, lorsqu'il est rentré de sa mission, je pense que c'était à Barbara, en Californie, où le frère Branham était en train de prêcher. Et cet homme a entendu la vraie parole de Dieu et il a dédié sa vie au Seigneur et au ministère. De ses lèvres, en 1949, j'ai entendu le nom de William Branham pour la première fois. Mais ensuite, en 1955, frère Branham est venu en Allemagne et en Suisse. Et bien aimé, c'était en août, il y a 61 ans, à ce moment-là, j'avais 21 ans. Maintenant, j'ai 82 ans. Mais dès le premier jour, dès la première réunion, j'ai su. Dans mon cœur, que celui-ci est un homme envoyé de Dieu. Ensuite, bien sûr, j'avais eu le désir, après les deux premières réunions, de serrer la main de cet homme de Dieu. En août, le 15 août 1955, j'ai serré sa main pour la première fois. Et avant qu'on se rencontre, qu'on se serre la main, il m'a dit, tu es un ministre de l'Évangile. Et c'est ensuite qu'on se serrait la main et que nous avons parlé l'un avec l'autre. Comme je l'ai dit, dès le début, dès le commencement, j'étais connecté à son ministère. Et chaque sermon que le frère Branham prêchait aux États-Unis m'était envoyé en Allemagne. J'ai grandi durant toutes ces années, durant les années 50 et 60, j'ai grandi sous le ministère de frère Branham. J'ai écouté tous les sermons, une fois, deux fois, et je les ai traduits en allemand. Ainsi, par la grâce de Dieu, je connais bien la parole promise pour ce jour. Je connais bien le ministère que Dieu a envoyé comme une confirmation de sa promesse en Malachie chapitre 4. Je suis même allé à Washington. Je voudrais vous montrer que quand j'ai entendu le frère Branham dire que la colonne de feu que cette photo-ci se trouve à Washington DC avec la lumière surnaturelle sur sa tête qui avait été photographiée le 24 janvier 1950. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris l'avion à Washington et j'ai cherché toute la matinée jusqu'à ce que je trouve l'endroit. J'ai vu cette photo dans le hall des arts à Washington. Toutes les choses que le Seigneur a faites dans notre temps, et même le magazine Science, qui donne un article sur l'apparition de la nuée surnaturelle le 28 février, et même le magazine Life, qui montre la photo et qui donne aussi un très long article sur la nuée surnaturelle qui est apparue le 28 février 1963. Et ici, il s'écrit « Et un haut nuage, un anneau de mystère. Ainsi, par la grâce de Dieu, toutes les choses que le Seigneur a faites dans notre temps, je les ai vues, je les ai entendues, je suis un témoin oculaire, je suis un témoin auriculaire par la grâce de Dieu. Même en décembre 1962, alors que j'étais avec le frère Branham, il m'a demandé de prêcher pour lui à Los Angeles, pour Demos Shekarian, parce qu'il avait eu une vision. C'était 6 mois avant que cet ange apparaîtrait dans une nuée surnaturelle. Et il lui avait été dit dans la vision que lorsque sa rue dans laquelle il vivait serait élargie, c'était une rue très, très étroite. Mais dans la vision, il a vu que quand cette rue serait élargie, quand les barrières de son jardin, les clôtures de son jardin seraient mises sur la pelouse et que les bulldozers iraient le long de sa rue, alors ce serait le moment pour lui de déménager à Tucson, en Arizona. Ainsi, en décembre 1962, ses yeux ont vu les bulldozers, ses yeux ont vu les clôtures sur la pelouse, et ses oreilles ont entendu William Branham demander au frère Frank de prêcher pour lui à Los Angeles, parce que lui, il devait déménager, faire ses valises et déménager avec sa famille au début du mois de janvier 1963, vers Tucson, Arizona. selon la vision que le Seigneur lui avait donnée. Et en 1968 et 1969, le frère Perry Green nous a emmenés à la montagne Sunset, où la nuit surnaturelle avait apparu. Et le frère Branham avait fait quelques déclarations et avait dit: il y avait sept coups de tonnerre, sept tonnerres qui ont fait trembler toute la zone. Et il a fait sa déclaration que le sommet des arbres avait été plié, cassé comme ceci, et les roches auraient dévalé le long de la montagne parce que, à cause de ce tremblement de terre qui était accompagné de sept puissants coups de tonnerre. Ses yeux, en décembre 1968, ont vu les arbres, ont vu les rochers qui avaient dévalé de la montagne. Ainsi, par la grâce de Dieu, je voulais être sûr que ce dont je témoigne, je puisse dire ce que mes yeux ont vu et que ce que mes les oreilles ont entendu cela, nous le partageons avec vous. Combien de choses je pourrais encore mentionner, comment le Seigneur a conduit à travers toutes ces années, parce que dès 1948, quand j'avais été baptisé dans le Saint-Esprit, j'avais eu part à plusieurs conventions internationales. Et en 1960, j'allais être le manager de TL Osborne pour l'Europe. J'étais à Tulsa, Oklahoma, à l'université d'Oral Roberts. J'avais fait une visite pour savoir ce qui se passait. J'ai connu frère Gordon Lindsay et sa femme personnellement. Alors, Gordon Lindsay avait écrit le livre « Un homme envoyé de Dieu ». William Branham, un homme envoyé par Dieu. J'ai aussi connu frère David Duplessis. En 1964, j'ai prêché à Rome, dans l'église de John McTurnell. Et nous sommes restés dans le même appartement avec David Duplessis. Il était en Afrique du Sud. Et il avait pris part au Concile Vatican numéro 2. Et nous sommes restés au même endroit, dans le même appartement. Je connais les choses qui se passent depuis toutes ces années. Et j'ai aussi connu Julius Statsklav, qui a écrit le livre « Un prophète visite l'Afrique du Sud ». Julius Statsklav était un militaire, et il était basé en Allemagne. Et la sœur Branham et la sœur Statsklav se connaissaient l'une l'autre depuis leur jeunesse. Ainsi, par la grâce de Dieu, je suis arrivé à connaître frère Branham. J'ai connu ses amis et bien-aimés. La chose la plus importante était l'appel direct au ministère. Et frères et sœurs, je suis honoré d'être ici aujourd'hui. Comme vous le savez, le frère Branham a parlé de 12 pays différents. Il a parlé de Bombay en Inde. Mais ce pays, et spécialement Durban, avait une place spéciale dans son cœur. Il n'a jamais dit « Je dois revenir en Finlande, je dois revenir en Suède, je dois revenir en Allemagne, je dois revenir en Suisse. » Mais il a dit: mon ministère en Afrique du Sud n'est pas terminé. Et il a parlé des réunions à Durban d'une manière très spéciale. Et bien, mes amis, je suis ici aujourd'hui. Je suis honoré devant Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Et je sais que je parle à l'épouse de Christ. Je parle à ceux qui croient la parole promise de Dieu pour ce jour. Et s'il vous plaît, rappelez-vous que tout d'abord Dieu fait des promesses. Et lorsque le temps est arrivé, il accomplit ce qu'il a promis. Et dans ces quelques moments, je vais me référer à ces choses afin que vous compreniez que Dieu fait toutes choses selon sa parole. Tout d'abord, il fait des promesses. Ensuite, nous croyons les promesses. Et ensuite, nous voyons les promesses être accomplies. Si nous allons au début du Nouveau Testament, Jean-Baptiste était un prophète promis. Malachie, chapitre 3, dit, le Seigneur dit, « Je vous enverrai mon messager devant ma face pour préparer mes voies, mon chemin devant moi. » C'était une promesse, une promesse. Et lorsque le temps est arrivé, que la promesse devait être accomplie, que s'est-il passé? L'ange Gabriel est venu et descendu du ciel, parlant à Zacharie, lui annonçant la naissance de Jean-Baptiste, qu'il irait devant le Seigneur, dans l'esprit et la puissance d'Élie, pour préparer les voies du Seigneur. Et si vous lisez dans Jean chapitre 1er, on lui a demandé, « Es-tu Élie? Es-tu le prophète ?» Il a dit, « Non, je ne le suis pas. » Mais au verset 23, il a dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Isaïe, chapitre 40, verset 3, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez la voie du Seigneur. Préparez un peuple pour le Seigneur. » À la première venue du Christ, toutes les promesses et toutes les prophéties relatives à ce temps ont été accomplies. Jean le Baptiste, un prophète promis, un homme envoyé de Dieu, avec la parole de Dieu, pour le peuple de Dieu. Et selon Luc, chapitre 1er, versets 16 et 17, il a préparé les gens pour qu'ils rencontrent le Seigneur. Et parce que la première partie de Malachie, chapitre 4, était accomplie par son ministère, dans son ministère, la seconde partie est accomplie dans notre temps. La première partie disait de tourner le cœur des pères vers les enfants. On peut le lire dans Luc, chapitre 1er, versets 16 et 17. Il tourne les cœurs des pères de l'Ancien Testament, des croyants de l'Ancien Testament, aux enfants du Nouveau Testament. Dans le prophète Malachie, il est aussi écrit, « Tournez, ramenez les cœurs des enfants au Père. » Et le frère Branham a fait la déclaration plusieurs fois. Ceci est le temps où les cœurs des enfants de Dieu sont ramenés aux pentecôtistes originaux, aux pères originaux. Retour au début, retour à Dieu, retour à la parole, retour au fondement originel. Ainsi, chaque écriture est accomplie, est en train d'être accomplie. Et comme je l'ai dit, en Malachie 4, le Seigneur a fait la promesse, et il confirme la promesse lui-même dans le Nouveau Testament. Je vous le lis afin que vous sachiez que ce n'est pas seulement moi ou quelqu'un d'autre qui l'a dit, mais c'est la Sainte Parole de Dieu dans Matthieu 17. Matthieu 17, au verset 11. Et lui, Jésus répondant, leur dit, en effet, Élie vient premièrement et il rétablira toutes choses. Vous savez ce que ça signifie, restaurer, ramener dans la position originelle. Si ce building devait s'écrouler à cause d'un tremblement de terre, s'il devait être restauré, il devrait avoir les mêmes mesures. Toutes choses devraient être les mêmes. Ainsi, le dernier ministère, le ministère de Frère Branham, était là pour restaurer les croyants du Nouveau Testament au commencement même, à la même fondation, aux mêmes enseignements. Toutes choses, à la fin, doivent être les mêmes qu'au tout début. Le premier et le dernier sermon doivent être les mêmes. Le premier et le dernier baptême doivent être les mêmes. Une foi, un Seigneur, un baptême. Ainsi, ce n'est pas seulement parler du message, mais je vous enverrai Élie, le prophète, pour restaurer, rétablir toutes choses. Nous devons être restaurés. Toutes les vraies expériences, salut, guérison, délivrance, tout ce que le Seigneur a placé au début dans l'Église doit être restauré. Ainsi, ceci est le temps de Dieu pour la restauration. Le frère Branham avait un ministère restauré apostolique prophétique. Bien-aimés, si je devais vous dire ce que mes yeux ont vu et ce que mes oreilles ont entendu, il ne parlait pas allemand, il parlait à travers un interprète, mais pour chaque personne qui passait dans la ligne de prière, Dieu lui montrait une vision. Il pouvait dire aux personnes d'où ils venaient, d'où elles venaient, ce qu'elles faisaient, de quelle maladie ils avaient. Et il prononçait la guérison dans le précieux et saint nom de Jésus-Christ. Ses yeux ont vu ce que Dieu a fait à travers un ministère restauré du prophète. Et le prophète disait ce que Dieu fait à travers son ministère, Dieu restaurera. Et cela aura lieu à travers l'Église restaurée avant le retour de Christ. Nous ne devons pas seulement parler de ces choses, mais nous devons connaître, savoir que c'est le temps de Dieu, de l'appel à sortir, le temps de Dieu pour la séparation, le temps de Dieu pour la restauration. Ceci est le temps spécial de Dieu pour le peuple de Dieu. Et nous devons reconnaître notre jour. Ainsi, même dans Marc, chapitre 9, le Seigneur a mis l'accent sur les promesses de l'Ancien Testament. Marc 9, verset 12. Et lui, répondant, leur dit, « En effet, Élie vient premièrement et rétablit toutes choses. » Ceci est ainsi dit le Seigneur. Ceci est la parole de Dieu. Ça n'a pas besoin d'interprétation. C'est très clair. Et à propos, si vous lisez 2 Pierre 1, aucune prophétie de la Bible ne peut être objet d'une interprétation. De ces hommes de Dieu ont parlé par l'inspiration du Saint-Esprit. Et les saints hommes de Dieu ont donné ce que le Seigneur a dit par sa grâce. Une fois, les prophètes ont parlé, les apôtres ont parlé au nom du Seigneur, partageant les choses que Dieu a révélées aux prophètes. Et ensuite, notre Seigneur pouvait dire dans Jean 20, verset 21. Comme mon Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. Ceci est aussi très important de savoir que quand Dieu accomplit les prophéties bibliques, quand les choses arrivent qui font partie du plan de salut, alors vous devez reconnaître que Dieu est en train de faire l'histoire. Ainsi, ici, je vais vous lire ce que le frère Branham lui a été dit le 11 juin 1933. Et en avril 1966, j'ai rencontré environ 10, 11, 12 personnes qui étaient présentes en 1933, parce que au service funéraire de frère Branham, auquel j'ai participé, Billy Paul avait demandé si quelqu'un était présent là, qui était là, en 1933. Lorsque la lumière surnaturelle est descendue et que de cette lumière, la voix a dit ces mots. Et le frère Branham a rapporté ici, « Oh, beaucoup de personnes, tout le long de la berge de la rivière, il y avait des reporters, des journalistes, des journaux. » Et là, il dit encore, j'ai entendu la voix, « Lève les yeux. » Et j'ai levé les yeux, et alors que je levais les yeux, cette lumière est descendue. Les gens ont commencé à s'évanouir, à tomber, à prier. Et la voix est descendue, qui a remué, qui a fait trembler tout l'endroit. Et a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ. Ainsi, le message qui t'a été donné sera le précurseur de la deuxième venue de Christ. Et ensuite, frère Branham a même dit, ce n'est pas que moi je serai le précurseur, mais le message devra être le précurseur. Ainsi, par la grâce de Dieu, le Seigneur a pris son prophète. Ses yeux ont vu le prophète dans le cercueil. Le 10 avril 1966, parce que j'étais venu d'Allemagne et je voulais être sûr que William Branham était dans le cercueil. Alors, j'ai demandé l'autorisation au frère Coutts si je pouvais voir le frère Branham. Il m'a emmené en haut. Il n'y avait qu'une seule pièce, une seule pièce. Et là était le cercueil de frère Branham. Et il était dans le cercueil. Il n'y avait aucune égratignure, ou absolument aucune égratignure. Et vous savez qu'il avait eu un terrible accident de voiture le 18 décembre. Et il est décédé le 24 décembre 1965. Mais il n'y avait aucune blessure, aucune égratignure. J'ai regardé son visage. Il avait un beau sourire. Et vous savez, j'ai aimé le frère Branham. J'ai reconnu son ministère. Mais il y a une chose que je dois dire. Nous ne prêchons pas William Branham. Nous prêchons Jésus-Christ. Je ne prêche pas Paul. Je ne prêche pas Pierre. Je ne prêche pas Jacques. Je prêche ce que Dieu a révélé à Paul, à Pierre, à Paul. Et nous prêchons ce que Dieu a révélé à William Branham. Et ceci est le message de l'heure. Et comme nous avons dit, il a été envoyé pour nous ramener à la parole de Dieu, pour nous restaurer. Juste un retour à la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie, restaurer? Si vous allez dans 1 Roi 18, lorsqu'Élie a appelé les gens, a réuni les gens ensemble sur le mont Carmel, tout le monde était parti dans leur propre direction. Et ensuite, le Seigneur a appelé Élie, lui disant de réunir tous les Israélites sur le mont Carmel. Et vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Le prophète Élie a pris les 12 pierres. Il a rétabli l'autel du Seigneur. Parce qu'il y avait 12 tribus. Ainsi, selon les 12 tribus, il a pris 12 pierres. Il a reconstruit l'autel d'abord. Qu'est-ce que le frère Branham a fait? Il a pris les enseignements, les doctrines des 12 apôtres. Il les a ramenés au Nouveau Testament. Un Seigneur, une foi, un baptême. Et ainsi, nous comprenons que le fondement originel a été trouvé. C'est comme avec les Juifs, lorsqu'ils sont revenus de la captivité. Vous lisez dans Esdras et Néhémie, lorsqu'ils sont revenus à Jérusalem, il n'y avait que des ruines, des ruines. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ôté toutes les ruines du temple et ils ont retrouvé le fondement original. Et une fois qu'ils ont trouvé le fondement original, ils ont loué Dieu. Et toute la terre a tremblé parce qu'ils avaient retrouvé le fondement original et ils avaient pu alors reconstruire le temple de Dieu. Nous devons trouver le fondement original d'abord. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit « J'ai posé le fondement ». Aucun autre fondement ne peut être posé. Et ce fondement est Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, bien-aimé, ce n'est pas seulement de parler d'un message. Il ne s'agit pas seulement de parler de Dieu qui a envoyé un prophète, mais quel est le but divin de ce message prophétique? La restauration du peuple de Dieu qui retourne à la parole et au tout début. Ainsi, ceci est le temps spécial de Dieu pour le peuple de Dieu. Et ainsi, nous comprenons, par la grâce de Dieu, que tous les mystères de Dieu ont été portés à la connaissance. Et dans Matthieu, chapitre 13, notre Seigneur a parlé de sept mystères en comparaison, en parabole. Et tous ensemble, notre Seigneur a parlé de 40 mystères à propos du royaume de Dieu. Et ensuite, notre Seigneur a dit à vous, il est donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Ainsi, bien-aimés, nous sommes replacés sur un sol sacré. Nous sommes ramenés au fondement original. Nous croyons les promesses de Dieu pour ce jour. Et nous verrons les promesses de Dieu être accomplies. Si vous lisez ce qui concerne Abraham, la Bible dit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament qu'Abraham crut Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Qu'est-ce que vous croyez? Qui croyez-vous? Soyez sûr que vous croyez Dieu. Soyez sûr que vous croyez ce que la Bible enseigne. Ne suivez pas un homme qui vous apporte d'autres enseignements et doctrines. Vous savez, bien-aimé, je ne dis pas ça très souvent, mais après que le frère Branham soit rentré à la maison, Dieu m'a utilisé pour partager le message original, la vraie parole de Dieu sur toute la terre. Même maintenant, nous atteignons tous les pays islamiques dans le golfe Persique. Nous atteignons les confins de la terre avec le message de l'heure. Et laissez-moi vous dire une expérience. L'an passé, alors que je prêchais au Pakistan, à Lahore, une ville située au centre du pays, un homme à la télévision posait la question au frère Nobel et au frère Michael, est-ce que le frère Frank, que vous invitez, a déjà rencontré frère Branham? l'homme à la télévision, dans la ville de Lahore, au Pakistan. Et quand il a entendu que j'ai connu le frère Branham personnellement, il m'a invité à la télévision. Et il a dit, mon grand-père était dans une réunion du frère Branham. Mon grand-père a vu les choses que Dieu a faites. Rappelez-vous, en 1951, le frère Branham a prêché à Bombay. Le grand-père de cet homme était là. Il est parti à Bombay pour écouter l'homme envoyé de Dieu. Et quand cet homme, maintenant, à la télévision, a entendu que j'ai connu le frère Branham, il a dit, nous devons entendre ce que cet homme de Dieu a à dire. Ainsi, j'ai parlé pendant une heure à la télévision, dans des pays islamiques, au Pakistan. Et une fois que j'ai fini, le brave monsieur a dit, frère Frank, vous avez à dire plus. S'il vous plaît, revenez et parlez-nous. Maintenant, nous avons un programme régulier tous les vendredis et le programme est diffusé dans 56 autres nations. Ils écoutent le message de l'heure. Bien-aimés, comme nous l'avons lu à propos du frère Branham, tu es envoyé avec un message qui préparera la seconde venue de Christ. Ainsi, le Seigneur a repris son serviteur, mais le message, la vraie parole de Dieu promise pour ce jour, ni ajouter, ni changer, mais prêcher et enseigner la parole de Dieu à toutes les nations. Comme le Seigneur l'a dit dans Matthieu, chapitre 24, verset 14, cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations, et ensuite viendra la fin. Maintenant, nous allons rapidement parler des développements dans le message. Mon cœur est brisé parce que de manière internationale, au cours de toutes ces années, il y a eu tant de différents enseignements qui sont apparus. Le premier a été l'accent qui a été mis sur l'année 1977. Et les frères des USA disaient, ainsi dit le Seigneur, 1977, ce sera la fin des choses, et le Seigneur viendra, le Seigneur reviendra avant 1977. Ce que j'ai passé avec ces frères-là, ces chers frères, qui ont pris des déclarations de frère Branham, hors de leur contexte. Le frère Branham a dit, je peux me tromper d'une année, de 10 ans, mais je crois que le Seigneur reviendra. Et alors, bien sûr, lorsque 1977 est arrivé et est passé, personne n'a fait la correction de quoi que ce soit. Mais ils ont encore recommencé avec d'autres nouveaux enseignements à propos de tonnerre, à propos de ceci, de cela, que le Seigneur est déjà venu. Combien de faux enseignements se sont élevés avec toutes ces années. Je vous demande, au nom du Seigneur Jésus-Christ, croyez seulement à la parole de Dieu. Ne suivez aucun homme avec de faux enseignements, parce que les élus ne seront pas séduits. Les élus sont une partie de l'épouse de Christ. Et l'épouse de Christ est la parole manifestée pour ce jour, croyant les promesses pour notre jour, notre temps. Même quand vous allez dans Apocalypse, chapitre 10, nous devons connaître ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Comme je l'ai dit avant, notre Seigneur a parlé de beaucoup de mystères. Comparant le royaume de Dieu et le frère Branham, dans un sermon, 16 fois, il s'est référé au mystère au pluriel, qui sont en relation avec le royaume de Dieu. Ainsi, il y a beaucoup de mystères. Une fois, le frère Branham a parlé d'Apocalypse 10, verset 7. Il a toujours utilisé le pluriel. Il a toujours utilisé le pluriel. Pourquoi? Parce qu'il était le septième messager de l'âge. Ainsi, à travers son ministère, tous les mystères, depuis le jardin d'Éden et à travers tout le livre de Révélation, tous les mystères en relation avec le royaume de Dieu avaient été révélés, avaient été fait connaître à nous. Mais Apocalypse 10, 7 ne parle pas des mystères, il parle d'un mystère. Il parle du mystère de Dieu. Et qui est le mystère de Dieu? C'est Christ qui est le mystère de Dieu, révélé. Ainsi, s'il vous plaît, comprenez. Mettez toutes choses de la bonne place selon la sainte parole de Dieu. Ceci est absolument nécessaire. Pas seulement répéter quelque chose, mais de revenir à la parole de Dieu. Et même si vous prenez Apocalypse, chapitre 10, le frère Branham a dit directement ici, l'ange de l'Alliance vient aux Juifs parce que l'épouse est déjà, terminée, déjà enlevée. Ainsi, lorsqu'il vient en tant qu'ange de l'Alliance, il place un pied sur la terre et un pied sur la mer. Il jure par celui qui vit pour toujours et toujours que le temps ne serait plus. Avec cette écriture, vous devez aller dans Daniel, chapitre 12, verset 7, où l'ange a juré. Et dans Daniel 12, il lève les deux mains. Et dans Apocalypse 10, il lève une main. Parce que dans l'autre main, il y a le livre ouvert. C'est après l'ouverture des sceaux. Et ensuite, dans Daniel, chapitre 12, au verset 7, le moment où il lève les mains, il est écrit, ce sera pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, précisément 3 ans et demi. Bien-aimés, vous devez aller de l'Ancien au Nouveau et du Nouveau à l'Ancien Testament. Les deux sont en complète harmonie. Mais ceci est absolument nécessaire, spécialement lorsque nous parlons du retour de Christ. Il y en a qui croient qu'il est déjà venu. Et bien-aimés, je vous dis ceci avec un cœur brisé. Lorsque j'ai vu une image de la tombe dans un cimetière en Europe, vous savez ce qu'il était écrit? Au-dessus de la tombe, il y a une image avec la nuée surnaturelle et le texte de Luc 21, et chaque œil le verra. Imaginez mettre cette image sur une tombe, pierre tombale, jusqu'où les gens peuvent aller. D'autres se mettent à genoux et prient. Bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de très grave qui arrive dans les rangs de ceux qui ne sont plus dans le message. Parce que le message, c'est la pure et véritable parole du Dieu Tout-Puissant. Et je répète ce que l'apôtre Pierre a dit. Aucune écriture prophétique ne peut faire l'objet d'une interprétation privée. Et si quelqu'un vous dit que le Seigneur est déjà venu, c'est un menteur. Parce que quand le Seigneur revient, moi je pars. Et aussi longtemps que je suis ici, il n'est pas encore revenu. Et aussi, lorsque nous lisons dans Matthieu 24, à propos des nuages, c'est aussi très important de bien revenir à la parole de Dieu. Et si vous allez dans l'Ancien Testament, qu'est-il écrit? Il est écrit avant le grand et terrible jour du Seigneur, Dieu enverra son prophète pour restaurer toutes choses. Et si vous allez dans Joël, chapitre 2, le soleil deviendra noir et la lune deviendra en sang avant le grand jour du Seigneur. Et ensuite, si vous allez au premier sermon, l'apôtre Pierre, a prêché le jour de Pentecôte, utilisant cette prophétie de l'Ancien Testament. Vous l'avez écrit dans Actes 2, verset 20. Le soleil sera changé en obscurité et la lune sera changée en sang avant le grand et terrible jour du Seigneur. Imaginez, dans le premier sermon, il y a 2000 ans, le jour de Pentecôte, cet homme de Dieu s'est référé aux prophéties de l'Ancien Testament. Le soleil deviendra obscurité et la lune sera changée en sang. Ce qu'il a prêché dans le premier sermon, je dois le prêcher dans mon dernier sermon. Et ainsi, nous comprenons par la grâce de Dieu que maintenant, nous sommes dans le jour du salut. Isaïe 49, versets 5 et 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. Ceci est le jour du salut. Ceci est le jour favorable. Mais après que notre temps est fini, le soleil deviendra ténèbres et la lune sera changée en sang. Et afin que vous sachiez que ceci est dans le futur, nous allons lire dans Matthieu, chapitre 24. Ceci est très, très important à savoir. Matthieu 24. Il est écrit à propos de la venue du Fils de l'homme, au verset 27. Et ensuite, verset 29. Et aussitôt après la tribulation, de ces jours-là, le soleil sera obscurci et la lune ne donnera pas sa lumière. Ceci se passera après l'enlèvement, après la grande tribulation. Ainsi, toutes les choses qui sont révélées dans les Saintes Écritures doivent être placées dans l'événement correct où il se passe. Et ainsi, nous comprenons, par la grâce de Dieu, que quand le frère Branham a parlé des sept sceaux, il a placé les quatre sceaux d'une manière, les quatre premiers sceaux d'une manière merveilleuse, selon ce que Dieu l'avait révélé, que l'Antichrist serait montré dans les quatre étapes parallèlement aux sept âges de l'Église. Dans les quatre premiers sceaux et dans le cinquième sceau, on voit les martyrs juifs qui crient, qui pleurent pour vengeance à l'autel, devant l'autel. Combien de temps, jusqu'à quand ne vengeras-tu pas notre sang? Et il leur a été dit d'attendre encore un peu jusqu'à ce que leurs frères meurent de la même manière. Ainsi, les cinq premiers sceaux doivent être absolument bien placés. Et le frère Branham a dit, le sixième et le septième sceau se passeront après l'enlèvement. Ce ne sera pas dans notre temps. Et si nous lisons dans Apocalypse chapitre 8, comment toutes choses sont bien mises correctement, mais ça se passera seulement après l'enlèvement. Ainsi, disons au nom du Seigneur, Dieu a utilisé le frère Branham pour révéler tout le plan de salut. Le péché originel dans le jardin d'Éden. Et ici, et le mystère, parce que le péché originel s'est passé dans un corps de chair. Le Sauveur, le Rédempteur, le Seigneur de gloire devait venir dans un corps de chair pour prendre nos péchés sur lui. Et en versant son sang, nous sommes rachetés et replacés comme fils et filles de Dieu, ayant reçu la vie éternelle par la grâce de Dieu. Ainsi, tout le plan de rédemption nous est révélé dans notre temps. Mais quelque chose de très important, nous devons aussi remarquer que les vrais croyants n'iront jamais après des interprétations faites par les hommes. Bien-aimés frères, je dis ceci au nom du Seigneur. Dieu est seulement dans sa parole. Et c'est seulement si vous êtes dans la parole de Dieu que vous pouvez être dans la volonté de Dieu. Et c'est seulement alors que vous pouvez être sanctifié dans la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Et sans sanctification, personne ne pourra voir Dieu. Ainsi, nous devons être lavés dans le sang de l'agneau. Nous devons être nés de nouveau par la semence de la parole de Dieu. Et par le Saint-Esprit, nous devons recevoir la vie de Christ. Et si vous allez dans l'Ancien Testament, Lévitique 17, verset 11, il est écrit « La vie est dans le sang ». Ainsi, quand Christ a versé son sang, il a donné sa vie. Et nous sommes rachetés par le sang. Bien-aimés, la même vie qui était dans le sang du Fils de Dieu et dans tous les vrais fils et filles de Dieu qui sont rachetés par le sang. Nous sommes rachetés. Nous sommes enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Comme il est écrit dans Osée, ceux qui n'étaient pas appelés mon peuple seront appelés les fils du Très-Haut. Ainsi, nous comprenons. Et même lorsqu'il est écrit dans Apocalypse, chapitre 1, verset 3, bénis soient ceux. Ainsi, je vais vous le lire, afin que vous compreniez le sérieux de cet avertissement dans la parole de Dieu. Apocalypse, chapitre 1er. Ici, nous allons lire seulement le verset 3. Apocalypse 1, 3. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Qui garde les choses qui y sont écrites. Ce qui n'est pas écrit, laissez cela à Dieu. Et dans chaque chose qui appartient au ministère de Frère Branham, laissez cela avec Dieu. Laissez cela avec le Frère Branham. Plusieurs fois, il a fait différentes déclarations. Je ne vais jamais à la chair utilisant différentes déclarations. Tout le monde sait lire et entendre ce que le prophète a dit. Mais lorsque des frères prennent des déclarations de leur choix hors du contexte pour en faire leur propre doctrine, alors c'est là que l'ennemi entre. Ainsi, nous devons faire attention à cela et être sur nos gardes. Et nous restons avec la parole originelle de Dieu. Je le répète. Quand le frère Branham a fait 55 déclarations sur les sept tonnerres, le 24 mars 1963, lorsqu'il parlait des sept sceaux, il a frappé sept fois sur la chair, se référant aux sept tonnerres qui étaient survenus le 26 février 1963. Vous devez savoir ce que le frère Branham signifiait, avait à l'esprit lorsqu'il disait quelque chose. Et comme le frère Branham disait, ce n'est pas seulement de prendre ce que je dis, mais comprenez ce que je veux dire. Le vrai ministère aujourd'hui, c'est de placer chaque chose dans son contexte, selon le plan du salut. Ainsi, si quelqu'un dit « le Seigneur est déjà venu » ou s'il parle du ministère qui doit revenir, tous ces différents enseignements qui divisent et divisent et divisent. Aucun véritable enseignement divise le corps de Christ. Chaque enseignement véritable unit le corps du Christ. Et chaque vrai enseignement, vous ne suivrez jamais un homme. Vous suivrez Jésus-Christ. Et aucun vrai serviteur de Dieu prépare ses propres voies. Chaque vrai homme de Dieu prêche la parole de Dieu. Et à propos, laissez-moi vous dire ceci comme un témoignage. Certains d'entre vous ont entendu mes témoignages. Bien-aimés, j'ai entendu la voix du Seigneur, comme vous entendez ma voix maintenant avec ses oreilles. Avec ses oreilles. Et chaque expérience est très spéciale. Mais une fois, c'était en France, à Marseille, quand pour la première fois, des frères d'Arménie sont venus et m'ont demandé « Qu'en est-il des sept tonnerres ?» J'ai dit « Je suis désolé, je ne sais pas. » C'était en 1980. J'ai simplement dit « Je ne sais pas. » Je prêchais dans tous ces pays, autour, et je voyais, j'ai même vu ces montagnes où l'Arche de Noé est arrivée, dans la montagne Ararat, et beaucoup de ses frères sont venus de là, ils sont venus en France, et la question était, qu'en est-il de sept tonnerres? Je n'ai eu qu'à dire, je ne sais pas, et je suis allé dans ma chambre. Mais le matin suivant, mes bien-aimés, je dis la vérité devant le Dieu Tout-Puissant. Le matin suivant, comme vous entendez ma voix, c'est toujours un commandement. Ça vous traverse les os à travers votre cœur. Ça vous pénètre complètement. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez jamais imaginer cette terrible voix du Seigneur. Et ceci est ce qu'il a dit. Mon serviteur, lève-toi et lis. 2 Timothée, chapitre 4. Vous vous levez à ce moment-là. J'ai lu 2 Timothée 4, à partir du verset 1. Je t'en adjure devant Dieu et le Christ Jésus, qui va juger vivants et morts et par son apparition et par son règne. Et ensuite, au verset 2, prêche la parole. Insiste en temps et hors de temps. Convainc, prêche la parole. Car il y aura un temps où ils ne supporteront plus le saint enseignement, mais ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise. Et bien aimé, j'ai toujours cette même montre aujourd'hui. C'est une montre suisse qui fonctionne jour et nuit. Il était 5h moins 5 du matin lorsque cette expérience surnaturelle est arrivé. Et frères et sœurs, à partir de ce moment, j'ai su que ce que les sept tonnerres ont dit n'était pas écrit comme parole de Dieu, et c'est pourquoi je ne peux pas prêcher. Comment puis-je prêcher si je suis appelé à prêcher la parole de Dieu? Si ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, je dois laisser cela à Dieu. Je ne peux rien dire à ce propos. Combien d'entre vous respectent la parole de Dieu? S'il vous plaît, respectez la parole de Dieu. Et même dans Apocalypse 10, lorsque la voix du ciel a dit, n'écris pas, mais scelle ce que les sept tonnerres ont dit. Respectez cela, fini. Continuez avec le Seigneur. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, je le répète, ceci est le temps le plus important dans l'histoire de l'Église du Nouveau Testament. Les prophéties et les prédictions bibliques sont accomplies avec Israël, avec les nations, de toutes manières, de toutes les façons dont le Seigneur l'a dit dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21, et ensuite il a dit, « Lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, levez vos yeux, car vous savez que votre rédemption approche. » Et chaque chose qui sont en rapport avec le plan du salut est connectée avec la réalité. Le ministère de Jean-Baptiste était une réalité. Le ministère de Jésus-Christ était une réalité. Ses souffrances étaient une réalité. Sa mort était une réalité. Sa descente aux enfers était une réalité. Pour conquérir la mort et l'enfer, il pouvait dire, « J'ai conquis la mort et l'enfer, j'ai les clés de la mort et de l'enfer. » Bien-aimé, il est ressuscité le troisième jour, victorieusement, victorieusement. Il a vaincu Satan, la mort et l'enfer. Et parce qu'il a vaincu, nous avons aussi vaincu. Nous sommes des vainqueurs parce que nous croyons la parole de Dieu. Et par la parole de Dieu, nous sommes replacés comme vainqueurs par le sang et par la parole de Dieu. Ainsi, même l'ascension de notre Seigneur était une réalité. Luc 24, versets 50 et 51. Actes 1, versets 9 à 11. Le même Jésus qui a été élevé d'entre vous au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Bien-aimés frères et sœurs, et les Saintes Écritures, toute la parole de la promesse sera accomplie. 1 Corinthiens, chapitre 15, le Seigneur reviendra, et ce sera en un instant, en un clin d'œil. Dieu n'a pas besoin d'années. Non, il parle la parole, et au moment où il dit, les morts ressusciteront, en un moment ce sera fait. Dieu n'a pas besoin du temps. Au moment où il dit qu'il y a la lumière, il y a eu la lumière. Et au moment où il dit que la terre produise, la terre a produit. Toute chose arrive au moment où il le dit. Et la parole de Dieu pour ce jour ne reviendra pas à vide, mais elle accomplira ce pourquoi elle a été envoyée pour ceux qui croient les promesses de Dieu et le message de l'heure. La parole de Dieu va être accomplie avec chacun d'entre nous qui croyons la vraie parole de Dieu pour ce jour. Même 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le Seigneur reviendra avec la voix d'un archange, avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ se lèveront en premier lieu. Et nous, qui serons encore vivants, nous serons changés en un moment, en un clin d'œil. Et ensemble, nous serons enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Un jour, un frère en Virginie, aux USA, après une réunion, il a dit, « Frère Franck, tu as parlé de la venue du Seigneur, mais est-ce que tu ne sais pas que le Seigneur est déjà venu ?» Je lui dis, « Oh, pourquoi tu dis qu'on est déjà enlevé ?» Il a dit, « Mais, je lui dis, c'est pas possible, tu es ici, et moi je suis ici, tu n'es pas changé, et je ne suis pas changé. » Alors elle a dit, « Oh, mais c'est une révélation, et si tu as la révélation, tu es enlevé. » J'ai dit, « S'il te plaît, reviens à ton bon sens, reviens à ton bon sens. » Chaque révélation divine est connectée à la réalité, et le retour de Christ sera une réalité. Les morts en Christ seront ressuscités. Ce sera une réalité. Le changement de nos corps sera une réalité. Et notre enlèvement dans les nuées, combien merveilleux. Mais là, les nuées, pluriel, est utilisé. Notre Seigneur est monté dans une nuée. Les deux prophètes, dans Apocalypse 11, ont été enlevés dans une nuée. Mais ici, c'est le mot au pluriel qui est utilisé. Ils seront enlevés dans les nuées, de tous les continents, de toute la terre. Nous serons tous enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et nous irons au banquet des noces de l'agneau. Nous serons assis avec Abraham, Isaac et Jacob. Et nous louerons le Seigneur pour toujours et toujours, pour la rédemption et pour la grâce que nous avons reçue. Ainsi, bien-aimés, avant de clôturer, laissez-moi vous dire ceci. Dieu nous a ramenés aussi avec des enseignements originaux à propos de Dieu, à propos du baptême, à propos du repas du Seigneur. Tous ces enseignements bibliques, Dieu les a restaurés, nous les a restaurés. Il n'y a pas trois personnes divines, il y a un seul Dieu, un éternel. Et il est un esprit éternel. Et personne n'a vu Dieu en aucun moment. Mais au commencement du temps, Dieu est sorti de l'éternité. Il s'est manifesté lui-même dans une forme visible d'apparence, marchant dans le jardin d'Éden, créant toutes choses par la parole de sa puissance. Et le même Seigneur de l'Ancien Testament est devenu notre Sauveur, le même Seigneur. Si vous voulez lire dans Luc chapitre 2, verset 11, « Aujourd'hui, Christ est né ». Qui est le Seigneur, le même Seigneur, exactement le même Dieu éternel, invisible Dieu, qui s'est manifesté lui-même en tant que Seigneur dans l'Ancien Testament, et 6556 fois, vous lisez le mot Seigneur Dieu, Elohim Yahweh, dans l'Ancien Testament. Et le nom hébreu du Seigneur dans le Nouveau Testament, tu appelleras son nom Yahshua, Yahweh Sauveur, Yahshua. Nous l'appelons Jésus dans nos langues. Mais le mot hébreu vient de l'Ancien Testament Yahweh. Yahshua, le Sauveur. Tu appelleras son nom Yahshua, parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. En tant que Seigneur, il pouvait dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Le même je suis de l'Ancien Testament et le même je suis du Nouveau Testament. Ainsi, trois différentes manifestations du même Dieu. En tant que notre Père céleste, en tant que son Fils seul engendré, Emmanuel, Dieu est avec nous et vivant en nous par le Saint-Esprit. Dieu au-dessus de nous, avec nous, en nous, trois manifestations pour accomplir son propre plan du salut, pour nous replacer en tant que fils et filles de Dieu dans notre position originelle. Et la même chose s'applique avec le baptême. Dans Matthieu 28, dans Marc 16, dans Luc 24, dans Jean 20, nous lisons à propos de la grande commission. Et vous devez lire ce qui est écrit dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean. Et prendre tout cela ensemble jusqu'à Acte 2, lorsque l'homme de Dieu a prêché le premier sermon, la parole qu'il a prêchée vint toucher les cœurs. Et ils demandaient, mais qu'est-ce que nous devons faire? Et la réponse était, repentez-vous chacun d'entre vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car cette promesse, rappelez-vous le mot promesse, car cette promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront, aussi loin que le Seigneur en appellera. Dans Matthieu 28, le sujet est le nom. Père n'est pas un nom, vous êtes un papa. Fils n'est pas un nom, ça c'est ce que vous êtes. Mais quel est le nom? Le nom d'alliance du Nouveau Testament, dans lequel Dieu s'est révélé lui-même en tant que Père au ciel, en tant que Fils seul engendré sur la terre, et dans l'Église par le Saint-Esprit, Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous. Tu appelleras son nom Jésus. Pourquoi? Chaque genou se ploiera et chaque langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Ainsi nous comprenons, par la grâce de Dieu, l'importance du nom d'alliance du Nouveau Testament. Chaque personne, depuis les jours de Pentecôte, a été baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Actes 2, verset 38. Acte 8, versets 15 et 16. Acte 10, versets 48. Acte 19, versets 5 et 6. Romains, chapitre 6. Partout, chaque personne dans le Nouveau Testament ont tous été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Durant les 300 premières années, la formule dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit n'a pas été utilisée, n'était pas connue. C'est seulement à partir de l'année 337, lorsque Constantin, qui était sur son lit de mort, un prêtre est venu et il a mis sa main dans l'eau et il lui a mis trois petites gouttes d'eau sur le front, utilisant la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas une seule fois. Cette formule n'a été utilisée dans les jours bibliques. Pas une seule fois. Pas une seule fois. Bien-aimé, pourquoi disons-nous cela? Nous devons être restaurés. Vous ne pouvez pas faire de compromis avec Dieu. Vous ne pouvez pas dire ceci, eh bien ceci non. Non, l'un est faux, l'un est vrai. Vous ne pouvez pas mélanger les deux. La vérité est la vérité, pour toujours et toujours. Et la parole de Dieu, et la Bible dit que chaque chose doit être établie sur la base de deux ou trois témoins. Ainsi, nous avons ici les évangiles, nous avons ce qui s'est passé dans les temps apostoliques, et la même chose s'applique au repas du Seigneur, à la Sainte Cène. Dans certaines églises, vous avez un plateau avec des petits verres, et chacun boit un petit verre, ce n'est pas scripturaire. Il y a un pain et une coupe, un pain et une coupe, pas plus et pas moins. Et l'apôtre Paul dit, comme je l'ai reçu du Seigneur, je vous l'apporte. 1 Corinthiens, chapitre 11. Êtes-vous prêt à retourner au modèle biblique? Êtes-vous prêt à être restauré? Êtes-vous prêt à sortir de tous les faux enseignements? Comme la Bible dit, « Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Ainsi, je vous recevrai et vous serez mes fils et filles. Et je serai votre Dieu. » Ainsi, résumons ce que nous avons à dire ici aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vous donne la compréhension divine que ceci est le dernier message avant le retour de Christ. la décision que vous allez prendre maintenant. Vous la prendrez avec vous dans l'éternité. Quelle soit la bonne décision avant que Dieu, devant Dieu et devant la parole de Dieu. Ainsi, nous comprenons que ceci est le temps de l'appel à sortir. Ce dernier message, dans Matthieu 25, voyez, l'époux vient, allez à sa rencontre. Vous comprenez? Pas le roi, pas le fils de l'homme, mais l'époux. Voici, l'époux vient. L'époux a une épouse. Et tous ceux qui font partie de l'église épouse, ils écoutent la parole de l'époux. Ils croient ce que l'époux dit dans sa parole. Et le dernier message est, voici, l'époux est en train d'arriver. Allez à sa rencontre. Et ensuite, au verset 10, nous lisons, celles qui étaient prêtes entrèrent dans le banquet de la salle de noces et les portes furent fermées. Et ensuite, les vierges folles, rappelez-vous ceci. D'abord, toutes sont vierges. Toutes ont entendu le dernier message, toutes sont sorties, toutes sont parties à sa rencontre, mais c'est seulement la moitié d'entre elles qui ont pu entrer dans les noces de l'agneau. Pourquoi? Parce qu'elles sont restées toujours fidèles à la parole de Dieu. Et bien aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 11, dit, « J'aimerais présenter à Christ une vierge pure et sans tache, s'il vous plaît. Ne soyez pas touchés par des fausses doctrines. Soyez dans la parole de Dieu. Demeurez dans la volonté de Dieu. Soyez préparés pour le retour de Christ, de Jésus-Christ. Mais celles qui étaient venues trop tard, elles vont frapper à la porte. D'abord, elles étaient vierges. Mais ensuite, elles sont restées devant une porte fermée. Frère, ce n'est pas le début. Le couronnement, c'est à la fin. Prenez Israël. Lisez 1 Corinthiens, chapitre 10. Toutes sont sorties avec Moïse. Toutes ont mangé de la manne. Toutes ont bu de l'eau qui est sortie du rocher. Toutes ont vu la colonne de feu. Mais Dieu n'a pas de plaisir avec certains d'entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas restés dans la parole et volonté de Dieu. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ceci encore, s'il vous plaît. Rappelez-vous ceci. Dieu ne va jamais mélanger les choses. La véritable semence est la véritable semence et la fausse semence est la fausse semence. Ainsi, par la grâce de Dieu, je termine en vous disant mon dernier témoignage. Ainsi, vous comprendrez la responsabilité que j'ai devant Dieu pour partager la parole de Dieu. Comme je vous l'ai dit avant, j'ai connu Frère Branham, j'ai connu le Seigneur, mais ensuite est venu un jour spécial dans ma vie, le 2 avril 1962. Et je voudrais vous le dire en quelques mots. Je m'étais préparé pour la journée et je suis allé à la fenêtre et j'ai ouvert les rideaux. J'ai regardé par la fenêtre et la saison des pluies était terminée et la nuit était terminée, mais le soleil n'était pas encore levé. Et je suis revenu dans la chambre. J'ai eu une petite prière. J'ai confié la journée au Seigneur. Et juste à ce moment-là, je regardais à nouveau à travers la fenêtre et d'en haut et de la droite, tel que vous entendez ma voix. Le Seigneur a dit ces paroles. Mon serviteur, ton temps pour cette ville sera bientôt terminé. Je t'enverrai vers d'autres villes pour prêcher ma parole. Et d'un coup, Je suis tombé sur le tapis.
Vous ne pouvez jamais, jamais imaginer l'impact, l'absolu dans la voix du Seigneur.
C'est après un petit moment que j'ai pu me relever sur mes jambes, mes genoux flageolaient, tremblaient comme cela.
Et je regardais vers la fenêtre.
Et j'ai dit, cher Seigneur, ils ne vont pas m'écouter.
Ils ont tout en abondance.
Ils ne sont pas prêts à m'écouter.
Je venais à peine de terminer ces paroles.
Et le Seigneur a parlé une seconde fois.
Mon serviteur,
le temps viendra où ils t'écouteront
en magasin de la nourriture, car une grande famine arrive.
Alors, tu te tiendras au milieu du peuple pour distribuer la nourriture.
Certains d'entre vous qui connaissent un peu l'histoire de l'Allemagne,
vous savez que l'Allemagne était divisée,
Berlin était divisé.
En août 1961,
il y avait un mur qui avait été construit à Berlin.
D'un côté, les tanks russes, d'un autre côté, les tanks américains.
Et nous ne savions pas ce qui arriverait d'un jour à l'autre.
Ainsi, j'ai pensé qu'il y aurait une famine naturelle.
Et j'ai mis de côté et j'emmagasine la nourriture naturelle.
Mais aucune tragédie, aucune famine n'est arrivée.
J'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu m'as dit,
cela, ça n'est pas arrivé. Prends ma vie, je ne peux pas prêcher, je ne peux plus prêcher. Prends-moi, je suis prêt à mourir.
Le matin suivant,
un frère est venu.
Un frère est venu
et m'a donné de l'argent.
Je crois que c'est la première fois
dans ma vie que quelqu'un vient.
Il dit,
tu as un voyage à faire devant toi.
Voici 1200
gulden allemands. C'était des gulden allemands à l'époque, pas des Deutschmark.
Et au moment où il est parti de ma chambre, de ma pièce,
il est venu dans mon cœur, mais pourquoi ne prends-tu pas un avion pour aller voir le frère Branham?
Et c'était précisément le montant dont j'avais besoin pour aller prendre l'avion.
Ainsi, j'ai fait le voyage vers les USA et j'ai vu le frère Branham.
Et il était en train de parler des réunions en Suisse et en Allemagne.
Mais j'étais impatient.
J'ai dit, frère Branham, je suis venu pour te demander quelque chose.
Il a juste levé sa main sur la table
et il a dit, frère Frank,
est-ce que tu veux que je te répète ce que le Seigneur t'a dit?
Il a répété mot pour mot,
dans l'ordre précis, ce que le Seigneur m'avait dit en allemand.
Alors il a dit, tu as mal compris.
Tu as pensé qu'il y aurait une famine naturelle
et tu as mis de côté des épiceries naturelles en stock.
Mais Dieu enverra une famine d'écouter sa parole.
Et la nourriture que tu devais emmagasiner était la parole promise de Dieu pour ce jour.
Et il a même fait la déclaration,
c'est dans les bandes qui sont enregistrées.
Et vous savez que chaque message que le frère Branham a prêché a été enregistré.
Ainsi, c'est la nourriture spirituelle pour notre jour.
Ainsi, j'ai fait deux choses.
J'ai prêché la parole de Dieu
et nous publions tous les sermons du frère Branham
dans les nombreuses, nombreuses langues,
tout à travers l'Europe, à travers le monde.
Tout le monde peut écouter ou lire les sermons de frère Branham.
Je les ai traduits en allemand.
J'étais responsable pour la Russie, pour toutes les langues en Europe,
en partageant la nourriture spirituelle, parce que, à cause d'un appel, une commission directe.
Et laissez-moi vous dire ceci, deux dernières choses que le Seigneur m'avait dit le 2 avril, qui était un lundi matin.
Il a dit, mon serviteur,
n'établis aucune église locale.
Je ne peux jamais être impliqué dans une église locale.
Je viens pour un ou une ou deux réunions et ensuite je pars.
Et je pars et je continue encore.
Mais Les frères, localement, sont responsables pour partager la même nourriture avec le peuple de Dieu. Ainsi, nous comprenons que même la dernière chose, ne publie pas un livre de cantiques car ceci est un signe de dénomination. Imaginez, au même jour, à la même heure où le Seigneur m'a appelé, il a donné des instructions directes de ce que je devrais faire et de ce que je ne devrais pas faire. Et jusqu'à ce jour, j'ai fait selon la parole de Dieu. Et maintenant, je regarde en arrière, et par la grâce de Dieu, depuis 1966, lorsque je suis revenu en Allemagne, j'étais dans un ministère à plein temps, apportant la parole de Dieu à tous les pays de l'Europe de l'Ouest, et à partir de 1968, j'ai traversé les frontières vers les pays de l'Est, comme la Roumanie, la Pologne, et dès les années 70, vers la Russie, et ensuite dans tous les autres pays, répandant la précieuse et sainte parole de Dieu, informant le peuple de Dieu de ce que Dieu a promis et de ce qui se passe dans notre temps. Maintenant, je regarde à plus de 50 ans, et ayant été dans exactement 155, 56 ou 157 pays, et dans plus de 550 villes où j'ai prêché. Toute ma vie a été dans le ministère pour servir le Seigneur, pour parler à propos de la deuxième venue de Christ, pour parler à propos de l'accomplissement des prophéties dans notre temps, pour montrer que Dieu a envoyé son serviteur et prophète William Branham pour restaurer, pour nous restaurer, juste pour proclamer le plein évangile à tous les enfants de Dieu, partout à travers la terre. Et maintenant, c'est ma vraie impression que nous sommes très très proches du retour de Christ. Nous ne sommes pas seulement dans la dernière génération, mais nous sommes à la fin de la dernière génération. Mais s'il vous plaît, comprenez, un appel divin, quelle responsabilité j'ai de partager le plein conseil de Dieu pour vous dire la vérité et jamais d'entrer dans un compromis. Non, la vérité vous affranchira. Et comme je l'ai dit, dans toutes les autres réunions, s'il vous plaît, écoutez ceci. Beaucoup ont reçu l'onction. Mais l'onction du Saint-Esprit, c'est la pluie qui vient sur les bons et sur les méchants. Et le soleil vient sur les deux. Et le frère Branham avait vu la bonne semence, la mauvaise semence, qui recevait la même pluie. Mais l'onction, ce n'est pas le scellement, s'il vous plaît. Lisez Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. Après avoir reçu la parole de la vérité, vous êtes scellés par l'esprit de promesse. Vous devez être scellés en tant qu'enfant de Dieu, croyant la parole de la promesse. Vous devez être scellés par l'esprit de la promesse. Et dans ce service, nous allons prier ensemble afin que le Seigneur accomplisse sa parole en chacun d'entre nous. Nous allons nous lever pour une parole de prière. Levons-nous pour un mot de prière. Combien veulent être inclus dans cette prière? Qu'ils lèvent la main. Combien désirent être prêts pour le retour de Christ? Béni soit vos cœurs, béni soit vos yeux, car ils voient, béni soit vos oreilles, car elles entendent, béni soit vos cœurs, car vous comprenez par la grâce de Dieu, comme notre Seigneur a dit, à vous, il a été donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu, à vous, il a été donné de croire les promesses, à vous, il a été donné de vous préparer, de vous séparer, d'être restauré. Et maintenant, nous allons aussi prier. pour le scellement par le Saint-Esprit de la promesse, afin que ça se passe. Combien croient la parole de la promesse? Laissez-moi voir vos mains. Ainsi, vous êtes enfants de la promesse. Galates, chapitre 4, verset 28. Comme Isaac l'était, vous êtes enfants de la promesse. Les enfants de la promesse croient la parole de la promesse et reçoivent l'esprit de la promesse. Seigneur Dieu, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que quelque chose de spécial se passe ce soir dans cette ville de Durban, d'une manière spéciale. Confirme ta parole avec ton peuple, qu'on soit séparés, qu'ils soient tous restaurés, qu'ils soient tous ramenés à Dieu, à sa parole, aux enseignements originaux, à la puissance apostolique, et qu'ils soient tous scellés par le Saint-Esprit de la promesse jusqu'au jour de la rédemption. Seigneur, nous te remercions pour la promesse dans Jean 14. Tu as dit, je m'en vais vous préparer une place, et ensuite je reviendrai, et je vous prendrai pour être là où je suis. Seigneur, je réclame chaque âme présente et tous ceux qui écoutent avec Internet, qu'ils croient et qu'ils reçoivent par le Saint-Esprit la promesse pour le jour, jusqu'au jour de notre rédemption. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur vous. Ceci est le jour que le Seigneur a fait pour vous. C'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Vous êtes ici aujourd'hui. Amen. Pour écouter la parole, pour croire la parole, pour obéir à la parole, pour être restauré dans la puissance du Dieu Tout-Puissant. Que les bénédictions de Dieu reposent sur vous. Au nom saint de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia.